Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus assister à cette rencontre autour de l'Utopie. J'ai la chance d'être accompagné pour parler de ce vaste sujet de deux autrices et un auteur. Bonjour Katia.
Bonjour.
On va prendre le micro. Hein.
Bonjour.
Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Et
bonjour.
Donc en fait, on va aborder ce sujet qui est très très vaste, comme je le disais, par deux prismes. Le prisme histoire avec un grand H et le prisme de l'histoire, du scénario et de l'écriture. Alors j'aimerais introduire ce débat avec Katia, parce que dans votre livre La Machine, il y a une phrase que j'ai extraite qui est « Une utopie, c'est fragile. Plus on s'en approche, plus il faut être prudent ». Pourquoi il faut être prudent ?
Eh bien, il faut être prudent parce que c'est peut-être le moment, lorsque l'accomplissement est proche, la ligne d'arrivée, peut-être que c'est à ce moment-là qu'on baisse la garde, qu'on se dit « ça y est, on a acquis ce qu'on voulait acquérir ». Et donc, c'est dans cet espace de léger relâchement qu'on ne voit pas peut-être la menace surgir, l'ennemi revenir, gagner en force dans cette énergie du désespoir. Et probablement que c'est là qu'il faut être le plus méfiant, le plus alerte, pour la tenir jusqu'au bout. C'était ça que j'avais envie d'exprimer dans cette phrase qui est dans la bouche de Niobe. Alors, vous n'avez pas La Machine sur le visuel, c'est les autres romans.
Qui sont bien aussi.
Merci. Et du coup, c'est la porte-parole vraiment du mouvement qui sait que ça peut s'écrouler à tout moment.
Mais d'ailleurs, parfois, les expériences utopiques, elles se transforment en monde autoritaire et oppressif. Donc, il y a toujours un basculement qui est fragile, ténu.
Je pense, et peut-être qu'on peut me corriger, que c'est dans La Servante Écarlate. La série, en tout cas, je me souviens que dans un épisode, il le dit texto, l'utopie des uns est toujours la dystopie des autres. Maintenant, on a des mouvements de désir d'utopie radicale, qui est le titre du roman de l'essai qui a reçu le prix de l'Ouest hurlant de... Je fais tellement à laquelle et son nom ne me...
J'ai oublié aussi, mais le livre est passionnant.
Si quelqu'un a Google, vous pouvez regarder Utopie Radicale, prix de l'Ouest hurlant cette année. Et le nom de cette autrice, à côté de qui j'ai été cassée pendant deux jours, excusez-moi. Mais donc, c'est clair qu'on peut la considérer comme une facette d'une médaille. Et l'autre est la dystopie d'une autre classe, d'une autre frange de la société. Maintenant, je pense que c'est une vision certainement fataliste. Et si on porte plus loin l'utopie, il faut la porter jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas l'utopie pour tout le monde, c'est-à-dire à minima, la dignité pour tout le monde.
D'ailleurs, pour vous, c'est quoi votre définition de l'utopie ?
Et bien justement, c'est un monde où tous, toutes, et entre les deux, nous pouvons vivre dans nos singularités, dans notre identité, dans la dignité.
Belle définition. Alors, je me tourne vers vous, Yves, parce que, en fait, est-ce qu'on doit passer forcément par la dystopie pour arriver à l'utopie ?
Dans le cadre de Métaux, par exemple, oui, enfin, ça me paraissait important de... Métaux, je le vois comme une œuvre politique, en fait, puisque je plonge des adolescents dans un premier univers qui est un univers complètement dystopique, fascisant, où ils n'ont qu'à suivre l'ordre. Après, à un moment donné, ils vont partir et réussir à rejoindre des rebelles pour lesquels il n'y a pas de règles, à part la règle du plus fort, et puis des règles un peu floues. Finalement, c'est presque pire que ce qu'ils ont vécu avant. Et à la fin, ils vont essayer de construire quelque chose ensemble. Et moi, ma réflexion, c'était que c'était dur, très très dur. Voilà, on a toujours l'impression que ça fuit, de ce que tu racontes, aussi sur la fin. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à un idéal, on arrive plutôt à des compromis. Et moi, je crois que la clé, c'est ça. C'est-à-dire que l'utopie, elle serait réalisable parce qu'elle existe dans certains endroits, mais seulement au sein de petites communautés. Et je pense que c'est l'élargissement qui souvent fait tout casser parce que en fait ça ne fonctionne que si on n'est pas à l'unanimité, enfin si on n'est pas à la majorité mais à l'unanimité. Il faut convaincre tout le monde du meilleur compromis pour arriver à construire quelque chose. Et donc, voilà, c'est vers là qu'on tend, en fait, à la fin, dans cette histoire-là, finalement, ils réussissent à faire quelque chose, mais ils sont isolés du monde, ils sont sur une île, ils sont un certain nombre, on va dire, et déjà, comme ça, c'est pas parfait.
Voilà. Katia, on peut arriver à une utopie ou pas ? Pardon, Alexandra.
Oh là là, arriver à une utopie comme... dit en fait, c'est-à-dire avec des petits groupes. Alors c'est vrai que moi par exemple dans l'archiviste, donc il y a deux utopies qui s'opposent, c'est-à-dire que il y a cet archiviste qui est là et qui se bat pour son pays, et de l'autre côté il y a cet homme au chapeau, donc qui est l'envahisseur et qui lui a une autre utopie qui pourrait être justement une contre-utopie. Et donc les deux s'affrontent.
Ça dépend du quel côté on se place.
Exactement. Oui, ouais, tout à fait, parce que et ça, c'était assez intéressant aussi pour moi, c'est-à-dire que, alors, dans la construction, dans l'écriture, c'était assez compliqué, puisque moi, j'ai moi-même ma propre utopie, et donc, c'était de donner la parole à cet homme au chapeau qui, pour moi, est le mal incarné, et pour autant, il fallait tout de même que je lui donne des arguments qui étaient assez plausibles et pertinents, pour que l'utopie fonctionne aussi. Et puis, donc oui, c'était assez difficile.
Mais dans l'archiviste, il y a quelque chose d'un peu futile, parce qu'on peut se dire conserver des livres, des œuvres d'art, c'est futile en temps de guerre. Mais en fait, il y a peut-être une volonté politique, mais une volonté artistique. Est-ce que l'art, c'est utopique aussi ?
Ouh là là. Alors,
il y a une forme d'utopie dans l'art, de toute façon.
Oui, non, mais effectivement. Mais après, pour moi, c'est aussi ce qui fonde une identité,
une culture.
C'est-à-dire qu'effectivement, lors de cette écriture, donc moi je suis d'origine ukrainienne, je voyais tous les jours cette guerre qui avançait, qui progressait. Et pour moi, écrire cet archiviste était une façon de me mettre à distance de cette guerre tout en étant avec eux et de combattre d'une certaine façon. Donc effectivement, sans ces soldats sur le front, l'art finalement n'est rien, est futile comme vous dites, mais en même temps, quand on écoute les Ukrainiens là actuellement, s'ils se lèvent, c'est parce que justement il y a depuis plusieurs générations cet art qui parcourt le peuple ukrainien et qui leur permet de se lever. C'est-à-dire que dans l'archiviste, je parle notamment de Taras Shevchenko, qui est le poète du 19e, c'est un peu leur Victor Hugo, et dans un des poèmes il dit de toute façon il faut se battre puisque la vérité vaincra, la liberté arrivera et notre âme ne peut pas mourir. Et comme ce sont des vers qui sont appris à chaque fois, à chaque génération, et bien finalement vous avez ce terreau qui est là pour les Ukrainiens et qui fait que ils se lèvent comme un seul homme.
Il y a l'idée de transmission aussi.
Oui, complètement. Donc futile, non, pas du tout. C'est-à-dire que l'art effectivement ne pourra pas faire grand-chose s'il n'y a pas effectivement quelqu'un qui se bat sur le front, mais en même temps, c'est quelque chose qui, là actuellement, permet au peuple de continuer, de se battre et d'y croire.
Donc ça peut être un vecteur de l'utopie, là, et en politique aussi, ça peut être un vecteur de l'utopie.
Alors,
en politique, oui. En fait, on peut utiliser la politique comme vecteur de l'utopie. Quand on défend ses idées, comme vous le faites.
Tout à fait,
livre.
Tout à fait. Après, le mot politique est forcément un mot tellement chargé. Moi, dans la machine, j'étais obligée de le prendre à bras-le-corps, parce que même quand on ne veut pas en faire de la politique, en fait, on en fait. Même dire qu'on ne veut pas en faire, c'est déjà faire de la politique. On sait bien, hein, le personnel, l'intime, le politique. Et je pense que j'ai pas mal de temps nié, en fait, pas pensé que j'étais un écrivain, une autrice engagée. Mais en fait, finalement, si, avec un peu de recul... la machine, c'est donc une allégorie de la guerre d'Espagne. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'ai dû me saisir du contexte politique pour pouvoir le transformer justement en allégorie, en deux romans. Ce qu'il y a, c'est que dans la politique, forcément, et je te rejoins, Alexandra, tout le monde va servir selon sa propre utopie. Et donc, c'est une allégorie de la guerre d'Espagne. Donc, j'ai évidemment les machinistes qui représentent un peu la coalition rouge, les partis ouvriers, les syndiqués, qui forment les miliciens et les brigadistes, qui vont affronter les fléchistes, qui sont donc dirigés par un seul homme, qui est le général Ovando. J'imagine que vous voyez bien à quoi je fais référence de l'histoire de l'Espagne. Et en fait, les modelins de la première machiniste, qui veut en fait que chaque personne dans la société soit autant respectée qu'un écrou dans une machine, parce qu'un écrou qui n'est pas à sa place ou qui est mal utilisé peut faire péter toute la machine. Donc c'est ça la philosophie de la machine. Mais en fait, le général Ovando va retourner ça en disant bien sûr qu'il faut que chaque citoyen ait sa place dans la machine, sauf que d'une part, la nuance très très, très très fine, c'est que Amaya Magister, qui est représentante des machinistes, va vouloir donner l'occasion à chacun de choisir sa place et de que la machine s'adapte en fonction de la place de chacun. Mais de l'autre côté, le bord des conservateurs aimerait imposer la place à l'écriture, surtout qu'on ne dépasse pas. Donc, évidemment que... alors, moi, je suis aussi scénariste de télé et conseillère éditoriale sur l'écriture de scénario, donc j'accompagne des scénaristes. Et j'avais un collègue américain qui tenait beaucoup à soigner les antagonistes, par exemple. Il disait, les antagonistes, on doit avoir autant d'empathie que pour les protagonistes, on doit les soigner autant, et limite l'auteur, l'autrice, la scénariste, doit les aimer aussi, parce que c'est une dynamique dans le récit. Et il disait, chaque personnage pense qu'il est la bonne personne, qu'il est une bonne personne. Parce que je crois qu'au final, c'est un peu humain, on a l'impression, à minima, on se comprend soi-même, j'espère, sinon, peut-être qu'on consulte pour essayer de se comprendre. Mais donc, même les antagonistes ont l'impression de faire le bien. Alors après, il y a la notion de bien ou de mal. Mais forcément, il fallait inventer une vision du monde utopique pour chacun des camps. Et pour les camps, oui, eux aussi.
Et j'aime bien d'ailleurs la définition que vous faites de votre livre La Machine. C'est à la fois une allégorie politique et une dystopie rurale, c'est ça?
Oui, tout à fait une dystopie rurale. Ça a commencé comme ça, en fait. C'est-à-dire que au tout départ, c'était un roman... jeunes adultes qui se passaient en fait dans un village où tout le monde fonctionnait de manière, etc. D'ailleurs, j'ai vendu à Jérôme Vincent, mon éditeur, en disant ça commence comme les Schtroumpfs et ça finit comme 300.
Donc c'est les Schtroumpfs énervés.
Il a dit il faut surtout pas pitcher comme ça, Katia.
Non, c'est bien.
Moi, c'est bien résumé.
Mais donc, un village où ça fonctionne et en fait, les tensions extérieures vont arriver jusque dans ce village. Et où en fait chacun va commencer à s'interroger sur sa place et finir, comme dans 300, à s'affronter les uns les autres. Après, j'avais utilisé l'adjectif rural parce qu'au départ c'était vraiment un village où c'était des agriculteurs, des paysans et voilà. Mais au final, je devrais peut-être dire une dystopie ouvrière, des ongles sales comme je les appelle dans mon livre, c'est-à-dire pour réunir tous les métiers et toutes les personnes. Qui font partie, qui sont convaincus par le parti de la machine, ils appellent les ongles sales. Ce sont ceux qui travaillent avec leurs mains, les mineurs, les agriculteurs, les paysans, les couturières, les servantes, voilà, les personnes qui ont les ongles sales, contrairement à ceux qui ne travaillent pas de leurs mains et qui ont toujours les mains propres.
Alors, vous parliez d'engagement tout à l'heure, vous êtes forcément engagé parce qu'il y a un rapport aussi avec votre histoire personnelle.
Oui, tout à fait, parce que le désir d'écrire La Machine, en fait, est venu... moi, je suis d'origine espagnole. Du coup, moi, j'ai été bercée par les histoires familiales, les souvenirs de l'Espagne, en fait, qu'on me racontait, ma grand-mère, ma mère, surtout, pour me donner à manger, pour me faire dormir.
Encore une histoire de transmission.
Voilà, tout à fait. Et à un moment donné, j'ai eu envie, vers 16 ans, 16, 17 ans, de rattacher la petite histoire, tu sais, quand on était en Espagne, tu sais, à la maison, donc c'était un peu compliqué, ils ont immigré en Belgique dans les années 60, donc il fallait comprendre où était ma place dans tout ça. J'ai eu besoin de me rattacher à la grande histoire. Et j'ai attendu qu'on s'approche de l'époque à l'école pour pouvoir l'étudier. En fait, on n'a pas du tout étudié. Donc j'ai commencé à me renseigner moi-même, à pouvoir faire des recherches familiales et frapper à la porte de mes grands-oncles, mes grands-tantes, à l'époque où ils étaient toujours vivants, ils disaient « raconte-moi ». Ils disaient « racontez quoi, c'est pas super intéressant hein ?» Mais si, si, en fait, c'est vraiment très très intéressant.
et d'avoir envie de rassembler dans une seule histoire toutes les anecdotes des petits et des grands faits héroïques de ma famille, parce que dans la machine, il n'y a pas de grands héros, il n'y a que des petits héros du quotidien qui font les choix qu'ils font, qu'il faut au temps de guerre. C'est pas facile. Ce sont des anecdotes. Il y a des gens qui disent ça, c'était trop gros quand même dans le roman. Non, mais c'est vraiment arrivé en fait. C'est mon grand-oncle qui a vécu telle ou telle chose. Et donc, il y a eu un silence jusqu'à ma génération où je pensais que ma famille était apolitique. On parlait pas de politique, comptable, jamais. Et en fait, ce n'est qu'en faisant des recherches pour la machine que je me suis rendu compte que parler de politique dans ma famille, c'était synonyme de danger. En fait, c'était prendre parti et donc avoir la possibilité en fait de devoir faire ses valises et partir. Et donc c'est vrai que dans ma démarche, il y avait une envie de rendre hommage à cette histoire familiale, à ces héros du quotidien, ces héroïnes du quotidien, de donner la parole à ceux à qui on n'a jamais tendu le micro et moi-même régler mes comptes avec la transmission et ce qui est arrivé jusqu'à moi, qui fait que ce que je suis aujourd'hui.
Et vous aussi, Alexandra, il y a une forme d'engagement, surtout par rapport à l'actualité en ce moment en Ukraine.
Oui, oui, alors effectivement, complètement. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'avec Katia, je ne te connaissais pas du tout, et il y a vraiment des ponts créés. C'est-à-dire que, donc, moi, je suis d'origine ukrainienne, et là aussi, alors, la culture est passée à travers la fête, à travers des anecdotes, et mon premier roman, effectivement, revient aussi sur les origines. Quelqu'un qui retourne dans son pays natal 20 ans après. Et donc c'est assez incroyable là aussi parce qu'il y avait des choses, alors notamment autour de l'Ukraine et de l'Holodomor, c'est-à-dire qu'à 15 ans, quand j'apprends qu'il y a eu une famine en Ukraine dans les années 32-33, je vais voir ma grand-mère, puisqu'elle est arrivée en France en 1936. Et
une famine sciemment organisée.
Oui, exactement, par Staline. Et donc je lui dis, mais tu étais là-bas, mamie, qu'en est-il? Qu'as-tu vécu? Et là, en fait, alors que j'avais vraiment une communication incroyable avec elle, elle me dit « ça n'a pas existé ». Mais ce n'était pas « ça n'a pas existé, t'inquiète pas ». Mais vraiment, elle s'est détournée et c'était vraiment de dire « je ne peux pas te raconter ». Et dans mon premier roman, je parle de l'Holodomor. Alors, pas seulement, c'est-à-dire que c'est un chapitre, mais c'est un chapitre qui est pivot. Et là aussi, c'était une façon de dire tu n'as pas pu me raconter, tu n'as pas pu partager, me transmettre ça, et bien finalement, dans mon premier roman, je vais le transmettre à d'autres personnes. Et c'est une grand-mère qui raconte ça à sa petite-fille. Donc effectivement, il y a une forme, là, ne serait-ce que dans le premier roman, une forme d'engagement, de transmission, de dire, ma famille n'a pas pu me transmettre cette chose-là, mais je transmets pour d'autres personnes pour qu'on puisse en parler. Et c'est vrai que quand... Le roman est sorti en 2019, tout le monde me disait « je ne connaissais pas l'Holodomor ». Actuellement, il y a des choses qui ont été faites, ça a été reconnu par le Parlement européen, mais cette année seulement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous parcourt. Même si on n'est pas soi-même des exilés, c'est quelque chose qui est vraiment transmis par la famille, parce que on est aussi une famille réduite, on n'a pas forcément tous les cousins, cousines, etc. Donc on se retrouve entre nous et on a une famille qui est très, très importante. Donc ça c'était pour mon premier roman. Effectivement pour l'archiviste, donc c'est un roman que je n'avais pas prévu d'écrire. J'étais en train d'écrire le tome 2 de mon roman pour les jeunes adultes. Et là aussi, c'est-à-dire que j'ai été... il y a une part de sidération qui était là, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'écrire, je ne pouvais plus écrire du tout à un moment donné de fiction, et puis très rapidement j'ai eu ce que j'appelle mes voix ukrainiennes. Alors non pas que je sois Jeanne d'Arc, hein, mais c'est-à-dire que j'avais envie de transmettre là aussi ces voix ukrainiennes qui ont fait que finalement l'Ukraine est ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc là, être une autrice engagée, moi non plus, je n'y ai jamais pensé. C'est pas quelque chose qu'on va pas se dire. Maintenant, je deviens. J'ai un engagement, mais c'est quelque chose qui est plus fort que nous.
Mais quand on parle, on s'engage, on a une position, donc forcément. Hein.
Oui, tout à fait. Oui. Mais il y a plusieurs niveaux dans l'engagement, et là, c'est vrai que, notamment pour l'archiviste, l'engagement est très fort. Mais bon, après, quand on voit, j'ai écrit 4 romans, dans les 4 romans, il y a cette idée de transmettre la culture, transmettre les histoires, les contes, les légendes, comme vraiment, ou alors l'archéologie, l'art, comme vraiment quelque chose de, non pas de futile, mais vraiment de, comme une pierre angulaire, en quelque sorte. Donc oui, mais oui, enfin, je ne me dis pas non plus autrice engagée, mais... Enfin, je le suis.
Mais c'est intéressant parce qu'en fait, toutes vos histoires, elles ont un lien aussi avec vous, parce que Métaux, il est toujours à la recherche de son passé, donc il y a une histoire de transmission, d'héritage aussi.
Oui, Métaux est un héros sans mémoire, en fait, au départ. Donc, un héros sans mémoire qui est projeté dans un endroit très artificiel où les autres n'ont pas de mémoire non plus. Enfin, voilà, et on ne sait pas quel... Au début du roman, on ne sait pas à quelle époque ça se passe, ni à quel endroit on se trouve, si on est dans... Et même, on pourrait se demander dans quel genre on pourrait se trouver, d'ailleurs. Est-ce qu'on est dans quelque chose de magique ou quoi que ce soit? Et en fait, pas du tout. C'est un roman qui est très réaliste, qui aurait même pu être un roman historique, peut-être. Mais voilà, moi, l'histoire du monde, telle qu'elle existait, ne me convenait pas. Donc, j'ai réécrit l'histoire du monde pour pouvoir faire rentrer mon roman dedans. Mais c'est vrai que lui, c'est son obsession, c'est de savoir d'où il vient. Et pendant très longtemps, en fait, ses enfants ne savent pas qu'ils ont des parents, en fait. On leur a enlevé jusqu'à ça.
Il y a une forme de quête.
Voilà, il y a une forme de quête, au départ un peu floue, parce qu'ils ne savent pas très bien, en fait. Mais voilà, après, ils découvrent que forcément, ils viennent bien de quelque part, parce qu'ils ne sont pas idiots du tout. Et ils ont étudié les sciences naturelles, donc ils disent bien que l'homme n'arrive pas comme ça à tout créer sur la... à chaque génération. Et donc, voilà, et c'est une vraie quête, en fait, voilà, pour retrouver son père, et je le fais, je le balade pendant 800 pages avant qu'il retrouve son père. Mais c'est beau quand il le retrouve. Mais voilà, il aura souffert, mais à la fin, on y arrive.
Alors, parfois, pour arriver à l'utopie, on doit renverser la table, faire des révolutions, mais c'est un peu paradoxal, parce qu'il y a une forme de radicalité aussi. Je vais intervenir.
Je pense que la radicalité vient de la corde qu'on tire et qu'on tire et qu'on tire sur des promesses non tenues, sur de la langue de bois et sur l'humiliation. En fait, plus la colère, elle vient de l'humiliation, plus on va humilier les gens, plus en fait, c'est complètement contre-productif. En fait. Donc je reviens sur le pendant de la dignité, parce que j'ai beaucoup réfléchi à la... Dans la machine, je voulais faire un miroir, mais plutôt passer au tamis, l'histoire de la guerre d'Espagne qui est extrêmement complexe. Je me suis perdue en documentation et c'est très très utile en fait. La documentation, ça me permettait de ne pas écrire, d'avoir l'impression de travailler mais de ne pas me confronter au texte. Donc je me suis beaucoup documentée pour arriver à me dire, mais au final, est-ce que les besoins primordiaux, manger, boire, avoir un toit, la sécurité, est-ce que la dignité ne fait pas partie de ces droits fondamentaux, pour pouvoir alors imaginer le reste, pour pouvoir éclore, pour pouvoir être la meilleure version de soi-même, pour pouvoir discuter avec son voisin et pas avoir envie de le trucider parce que le pommier dépasse de la clôture. Voilà, ce genre de choses, je pense que l'humiliation est vraiment un bâton de dynamite et que il faut passer par là, parce que jusqu'à quand on va nous piétiner? Et je suis d'accord que c'est paradoxal, mais voilà, ça peut commencer comme les schtroumpfs et finir, ça va finir comme 300, en fait. C'est un avertissement, tout ça comme ça.
Alexandra, vous êtes d'accord avec ce paradoxe?
Oui, complètement. Et c'est vrai que dans l'archiviste, au départ, donc, mon personnage s'appelle K, et K est une, comme le nom l'indique, une archiviste. Elle est vraiment dans son refuge, elle est très peu portée. Alors, elle a une sœur jumelle qui s'appelle Mila, qui elle est photographe de guerre, donc elle est portée vers le monde extérieur, alors que K est vraiment centrée sur les archives, et elle n'aime pas non plus, enfin, c'est pas quelqu'un d'extraverti. Et pour autant, quand cet homme au chapeau arrive et lui dit j'ai une mission pour vous, puisque j'ai compris que ça ne servait à rien de détruire une culture, parce que tout simplement, quand on détruit une culture, il y a la nostalgie de cette culture qui reste en nous et qui nous sert justement de vecteurs pour résister. Là, vous allez devoir falsifier les œuvres du patrimoine ukrainien et après, on remettra les tableaux dans les musées comme il faut, avec un tout petit truc qui change, mais en fait, ce tout petit truc fait qu'il n'y aura plus ce patriotisme ukrainien, et au fur et à mesure des générations, ce patriotisme sera mort.
Donc, on réécrit l'histoire.
On réécrit l'histoire, tout à fait. Et c'est et on a donc au départ un personnage qui finalement n'est pas une rebelle, c'est-à-dire qu'elle est elle reste elle pour justement protéger ses archives, mais elle a pas une démarche active, enfin ou du moins active, enfin oui. Et c'est le fait de titiller ce côté-là quand elle commence à corriger l'hymne, parce que en fait au départ elle ne veut pas modifier, mais comme il détient sa sœur, ben, elle est bien obligée finalement de se dire je vais pas tuer ma sœur. Et au moment en fait où elle commence à modifier, c'est là qu'elle, alors elle a ses, alors dans l'archiviste il y a à la fois des ombres qui sont là, parce que selon moi dans n'importe quelle bibliothèque ou musée il y a les fantômes des artistes précédents qui sont là, et donc ces ombres qui vont l'aider à résister. Ou alors, et c'est là le principe du fantastique, c'est, ça se trouve, il n'y a pas d'ombre, mais c'est elle-même qui trouve cette force pour rebondir et justement trouver un moyen de résister, tout en faisant comprendre à cet homme au chapeau qu'elle le falsifie. Donc oui, effectivement, il y a un côté à force d'humiliation, parce que là aussi, dans l'archiviste, je voulais montrer que c'est pas la première fois qu'il y a une invasion de ce type-là, c'est pas la première fois que on veut anéantir la culture ukrainienne. Enfin, dans les années 30, l'ukrainien a été interdit par l'URSS, tout simplement parce qu'on voyait, les soviétiques voyaient qu'il y avait une culture qui émergeait et qui faisait peur, parce qu'elle était trop puissante, trop forte.
Et on pillait les ressources.
Et on pillait les ressources, tout à fait. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce côté, bon bah ça suffit maintenant, on va arrêter de se faire marcher dessus.
Yves, il est bien présent aussi ce paradoxe dans Métaux, parce qu'on voit que petit à petit la tension monte et on va devoir faire appel à la violence et aux armes.
Alors il y a ça, forcément, oui bien sûr, au bout d'un moment il va falloir, ils n'avaient pas prévu ça au départ, mais ils pensaient peut-être s'enfuir, arriver à faire quelque chose de plus propre, entre guillemets, et puis ils vont se retrouver à se battre. Après, moi, il y avait un truc qui me plaisait dans Métaux, parce que Métaux, c'est pour adolescents, et enfin, ça peut être lu par des adolescents, c'est justement le moment où ils se retrouvent avec le pouvoir, en fait, et ils ne savent pas quoi en faire. C'est ça qui me plaisait. C'est des gamins qui ont constamment été obligés de toujours obéir. Ils arrivent à se débarrasser des gens qui les oppressent.
Et d'avoir une forme de conscience aussi.
Voilà, d'avoir. Alors, ils se réunissent, hein, ils se demandent alors comment on s'organise, etc. Et puis, ils sont obligés d'intervenir sur ceux qui reproduisent ce qu'ils ont vu avant. Ils voyaient que ce qui marchait, c'était la violence. Donc, avoir le pas sur les autres, c'est comme ça qu'on arrivait à tenir le coup. Et arriver à remettre des règles, à resituer. Bah non, voilà, il faut un peu essayer de leur enlever le modèle dans lequel on les a, cette espèce de peur qu'ils vont rejeter sur les autres. Pour ne plus avoir peur des autres, ils vont s'en prendre aux autres. Donc, c'était aussi un peu une manière de... Voilà, comment quand on a été aussi malmené, est-ce qu'on peut, on peut apporter une forme d'utopie quelque part, on peut apporter une forme d'apaisement aussi. Donc il y avait ça, parce qu'il y a ce petit moment, un moment dans à la fin du premier tome, où ça ne dure pas longtemps, quelques jours, ils vont se retrouver comme ça un peu dans leur bulle, avant que les soldats essaient de reprendre le dessus, et là où on a une vraie bataille, où on a un vrai affrontement, où là ils vont y laisser des plumes, forcément, ce qu'ils n'avaient pas prévu, parce que ils n'imaginaient pas, eux, dans leur monde, là, que puisse mourir un de leurs copains, par exemple. Voilà. Et d'un seul coup, c'est aussi une réalité à laquelle ils doivent faire face. Et... Bah oui, si on risque sa vie, on peut la perdre. Enfin, c'est aussi simple que ça, mais pour eux, c'est un effondrement.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans Métaux, c'est que si on prend la définition de l'utopie, c'est l'île. Et vous avez situé tout votre récit sur une île.
Oui, j'ai vraiment pris ça Pour moi, c'est la première utopie dans Métaux, en fait, c'est cette construction artificielle. On découvrira qu'elle est le fruit d'un gars qui est extrêmement intelligent et en même temps un peu déviant. Hein. Et il a construit un monde soi-disant parfait, en fait, où, par exemple, on institue des règles extrêmement dures. Ils n'ont pas le droit de manger comme ils veulent. Ils doivent manger à une vitesse très précise. ils doivent, entre chaque bouchée, ils doivent compter 50 secondes. S'ils en comptent que 49, ils sont enfermés dans des frigos pendant des journées entières et ils en perdent les bouts des doigts, etc. Bon, on est vraiment dans une situation comme ça. Mais en fait, tout se justifie. En fait, on fait manger à cette vitesse-là pour qu'ils digèrent mieux, un peu comme les parents qui disent qu'ils mangent trop vite, etc. Bah, voilà, là, on va faire le truc. De la même manière que les gamins qui prennent leur douche, les douches sont extrêmement limitées au niveau du temps, pour pas qu'ils aient le temps de rêver, voilà, ou qu'ils aient le temps de parler même, etc., ou d'échanger le moindre mot. Et en fait, on voit que tout ce qui pourrait paraître comme quelque chose de, qui a un sens, on pourrait dire, est complètement retourné par la perversité de celui qui a créé ce monde-là, parce que quand on compte, quand on est complètement obsédé par l'idée qu'on va rater la prochaine bouchée, on n'arrive pas à parler. Donc du coup, on n'arrive pas à échanger, on n'arrive pas à monter de révolte non plus. Et ils découvrent aussi qu'ils sont drogués pour dormir, donc ils ne rêvent pas, ils ne peuvent pas parler, pas avoir de petites confidences dans les dortoirs avant de s'endormir, etc. Voilà. Et c'est tout ce monde-là que j'avais envie de créer autour de Métaux.
Mais c'est intéressant là, ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, ça rejoint ce que Katia Alexandra vient de dire sur de là où on se positionne, de là où on voit la chose. Et là, on voit que la personne qui a créé cet univers, lui, pour lui, c'est peut-être utopique.
Alors, en plus, quand on rentre dans le roman, on voit que c'est une utopie qui a été créée autour de ces deux enfants. Ces deux enfants ont un certain problème et du coup, ils créent un monde à l'image de ces enfants, en fait. C'est des enfants qui ne peuvent pas grandir, en fait, ces enfants. Et du coup, il enlève des enfants quoi, qui restent là de 13 à 14 ans. Et puis, quand ils commencent à avoir atteint une taille trop importante, ils disparaissent. Voilà. Et donc, on est vraiment dans une sorte d'utopie, mais une utopie malade, quoi. Voilà, on pourrait dire dès le départ. Mais une utopie pour ces deux enfants qui vivent dans un bonheur, a priori, sans trop douter. Sauf qu'il y en a quand même qui commencent à se demander pourquoi tout le monde disparaît et qu'il n'y a que qui reste, quoi. Voilà, mais oui, au départ, c'est plutôt. Tout à l'heure, on parlait des protagonistes dont qu'il faut aimer et respecter. Moi, j'ai une certaine empathie pour celui qui a créé la maison, quelque part. Parce que, oui, c'est une manière de résoudre un problème bon, en faisant énormément de dégâts, mais il est amoureux de ses enfants, il adore ses enfants, quoi. Il le fait pour eux.
Je vais essayer d'emprunter le chemin inverse. Est-ce qu'il faut parfois mettre des limites dans l'utopie, dans la recherche de l'utopie ? Des limites ?
Question ?
J'ai envie de dire que là, si j'entends bien Yves, ton antagoniste, qui est en fait le créateur de ce monde, il poursuit un but noble. Maintenant, ça a l'air d'être un super personnage, je vais venir le venir vous voir à votre table.
C'est charismatique.
C'est le manque d'empathie de ce monsieur, de ce créateur, pour les personnes qu'il paternalise, au final. Je veux dire, dans l'utopie, là où il faut commencer à se méfier, c'est quand il y a des gens beaucoup trop bienveillants, beaucoup mieux veillants, là, qui veulent décider à la place des autres ce qui serait bien pour eux. Je pense que la limite, c'est la vision unique, la mécanique trop rodée, mais ça peut être cerné par une table composée de différentes personnes. Et là, on retombe peut-être dans une organisation qui va avoir des problèmes, qui va avoir des limites. Mais je pense que la limite de l'utopie, c'est quand une vision bienveillante commence à être répandu pour tout le monde, et surtout quelqu'un qui va venir dire « mais je sais mieux que vous ce dont vous avez besoin ».
Oui, c'est l'idée de l'utopie quand elle se fige, en fait, quelque part. Et normalement, pour que ça marche, il faut que ça soit tout le temps en mouvement, tout le temps remis en cause. Il y a toujours un truc qui fait qu'il faut améliorer le truc. Et c'est quand elle a l'air trop parfaite qu'elle commence déjà, au moment où elle arrive à son maximum, qu'elle devient dangereuse.
Et je rebondis aussi sur ton personnage, c'est-à-dire que c'est une personne qui aime peut-être trop ses enfants, et donc qui veut trop avoir une image figée là aussi, et c'est un peu comme l'homme au chapeau, c'est-à-dire qu'il a une image figée de ce que doit être le peuple ukrainien, et finalement sans voir qu'au fur et à mesure du temps, un peuple évolue, obtient une histoire, peut aussi partir du giron qui était la Russie. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, c'est aussi cette vision d'un monde en évolution qu'il ne faut pas oublier. Et effectivement, donc quelqu'un qui a des limites, qui est borné justement, voilà, la polysémie le montre aussi. Quelqu'un qui est borné, qui bat du chapeau, voilà, l'homme au chapeau.
bat du front.
Oui.
Alors, j'aimerais revenir sur le sujet de la rencontre, l'utopie face à l'histoire, se réinventer à quel prix. Donc j'avais prévu deux prismes, le prisme histoire avec le grand H et le scénario, le récit. On va s'arrêter maintenant sur l'aspect formel. Comment on fait pour se réinventer dans ces mondes utopiques ? Pour écrire.
Ben, je trouve qu'il y a une belle pêche qui a été là, qui vient d'être déterrée, c'est-à-dire se réinventer, ça veut dire accepter de regarder la société telle qu'elle est aujourd'hui, et puis demain, et puis après-demain. Je trouve que ça me fait sourire, parce que moi aussi, mon général Ovando, il a une certaine idée du royaume de Panim, qui doit redevenir un royaume avec ses valeurs conservatrices, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui rejoint nos antagonistes, c'est le conservatisme, c'est le... moi, je me méfie beaucoup de la tradition, par exemple, parce qu'il y a celle qu'on transmet, c'est super, mais celle qu'on revendique comme quelque chose de figé, à nouveau, c'est hyper dangereux, quoi. Donc, je crois que se réinventer, c'est obligé de regarder le territoire, la société, l'organisation, l'école dans laquelle on est, dans les yeux, et d'arriver à saisir ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle sera demain, et toujours en dialogue. Je trouve que la perche que vous avez tendue tous les deux est super intéressante pour cette notion de réinvention, en fait.
Alexandra.
Ah oui, mais complètement, effectivement. Et puis après, alors, c'était surtout par rapport à l'écriture,
oui,
aussi.
J'allais dans ce sens-là, en fait, pour sortir des imaginaires habituels, parfois clichés, oui, comme les ruines, l'apocalypse,
oui,
voilà, juste comme ça.
Oui, bien sûr. Moi, par exemple, pour l'archiviste, ça a été, enfin, cette écriture a été une façon de me mettre à distance et de me protéger, comme une écriture puisque j'étais le nez sur le live du Monde, heure après heure, je voyais quelle était l'avancée russe, ou au contraire, l'avancée ukrainienne. Et vraiment, cette écriture, donc recréer un univers, me permettait de m'extraire du monde actuel. Et comme l'écriture, effectivement, est un temps long, c'était aussi une façon de dire je m'extrais de cette guerre-là. Je connais ces mécanismes.
Une forme de distance.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, en fait, dans l'archiviste, j'ai repris des mécanismes qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle guerre. Il y a des lecteurs qui m'ont demandé si je n'avais pas l'idée au départ de parler de la Syrie, mais tout simplement parce que l'envahisseur commet à chaque fois les mêmes choses. Et là, effectivement, cette écriture aussi me permettait, enfin, il fallait que j'imagine ce qui allait être dans les pires choses, les atrocités. Et là, donc, le livre est sorti, et finalement, la réalité est pire que la fiction que j'avais imaginée. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour des enfants qui sont emmenés,
ouais,
et dont on lave l'identité, ça, c'était quelque chose qui est terrible et que je n'ai pas pu imaginer. Donc, c'est... en fait, là, la réalité dépasse la fiction. Et à côté de ça, sur certains points, par exemple, je crois que c'était une semaine après la publication du livre, mon éditeur m'a envoyé un lien en disant est-ce que c'est la préscience d'une autrice avec justement cet ordre des sites qui étaient dans les musées ukrainiens et qui ont été emportés en Russie. On ne sait pas où ils sont, et la Russie les revendique comme les leurs. Et donc... voilà, c'est là aussi, j'avais pas imaginé que ça se produirait, mais alors il y a effectivement cette réalité qui dépasse la fiction, et en même temps cette fiction qui rejoint la réalité. Et voilà, enfin, en tant qu'auteur, effectivement, on essaye de se positionner sur parce que enfin, écrire un livre, ce n'est pas répondre à des questions, mais c'est parce que nous-mêmes, nous avons des questions et qu'on essaie d'y répondre, mais on ne peut pas répondre non plus.
Et on tire des fils.
Et donc, effectivement, on va s'intéresser à comment un envahisseur s'y prend pour détruire une culture, etc. Mais malheureusement, enfin, parfois, l'imagination est en deçà de la réalité.
Et pour vous, Yves, comment fait-on pour se réinventer ?
Moi, j'aime bien me mettre une sorte de petit défi à chaque fois que je commence un nouveau projet. Et là, comme dans Métro, j'étais sur une idée d'un lieu artificiel qui n'existait pas. J'ai eu envie de me plonger dedans sans savoir où j'étais au départ, comme mon héros, en fait. Et en fait, j'avais très très peu de... J'avais pas beaucoup d'avance sur lui, en fait. Donc, j'ai vraiment commencé le roman comme commence le roman, c'est-à-dire... un dortoir la nuit, un lit qui craque, un enfant qu'on vient chercher et tout le monde a peur. Mais pourquoi on est là ? Il n'en sait rien. Voilà. Donc on va nous raconter un peu ce qui se passe et puis on va quitter ce dortoir et puis après on va découvrir ce que c'est que cette maison des enfants, ses coins cachés. Et puis au moment du deuxième tome, on va avoir un focus, le focus va encore s'élargir puisqu'on va être sur l'île. Et ce sera que dans le troisième, on comprendra dans quel monde on est puisque... Ça s'appelle Le Monde, le troisième, et donc il faut attendre 500 pages pour avoir une idée d'où on se trouve et à quelle époque on se trouve, en fait. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'espèce de plan très général que j'avais dans ma tête, mais en partant en me disant, tu sais pas où tu vas, mais t'y vas. Voilà. Et puis finalement, on arrive à... Plus on avance, plus les choses apparaissent comme étant cohérentes, et voilà, et plus on arrive à se projeter sur le monde qu'on était en train de décrire, mais au début, être vraiment dans la même position que lui, c'est-à-dire je subissais ce qu'il subissait, mais sans savoir pourquoi.
Je vais rester dans la même veine. Est-ce que vous pensez qu'il existe encore des territoires à explorer dans le domaine de l'utopie, de la SF ?
Oh, j'ai envie de dire oui, parce qu'il faut rester optimiste, hein, sinon il faudrait qu'on arrête. J'ai quand même un certain nombre de bouquins déjà, et à chaque fois en me disant ouais, vers où tu vas, quoi, voilà. Et qu'est-ce que tu racontes et comment tu le racontes et par exemple dans mon dernier roman j'ai fait le choix par exemple de traiter l'effondrement d'une manière optimiste, donc de me dire
c'est rare.
Ce futur qu'on nous présente comme étant catastrophique, il faut retourner cette histoire là il faut se dire oui, il est possible que ça aille, enfin, que ça s'effondre un peu ou que ça s'effondre carrément. Mais moi j'avais envie de créer un récit où finalement ça se passe pas si mal, en fait, pour dire les choses. Et alors après, forcément, pour donner envie à mon lecteur d'aller au bout, il y a beaucoup de mystères, parce que c'est l'histoire de notre Terre qui est en train de se régénérer petit à petit, mais le problème c'est que c'est comme s'il y avait des gens au-dessus de nous, ou je sais pas quelle force, ou quelle personne cachée qui serait en train de nettoyer le monde et de faire le travail qu'on n'a jamais voulu faire. Donc en fait, il y a à la fois, on est content de voir que les choses progressent, en tout cas pour mon héroïne qui est une militante écologiste, qui est extrêmement inquiète au début, même complètement désabusée par rapport à la vie, alors qu'elle n'a que 16 ans. Mais en même temps, il y a cette angoisse de se dire, oui, mais c'est pas nous qui tenons les rênes, et on ne sait pas ce qu'ils vont nous faire après, enfin, ou ce qu'on va nous faire après, ou qu'est-ce que ce sera l'étape suivante, en fait. On ne peut plus raffiner le pétrole, donc d'un seul coup, tout s'est arrêté, on ne peut plus extraire le charbon, voilà, c'est comme un Covid, mais qui ne s'arrêterait plus, en fait. Et donc, tout est bloqué. Et pourtant, voilà, ce n'est pas la fin du monde, en fait, on pourrait dire. Ce n'est pas, pas le chaos, ce n'est pas les gens qui se battent pour bouffer, etc., comme on veut toujours nous le vendre. J'ai pris le truc un peu à l'envers, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est parce que j'ai beaucoup lu autour de ça. Et en fait, on nous vend tout le temps que la loi naturelle, c'est la loi de la jungle, mais la loi naturelle, c'est la loi de l'entraide. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des gens comme Pablo Servigne, par exemple, qui en ont beaucoup parlé. Et moi, j'ai décidé de... Voilà, j'écris pour des ados, et à nous aussi d'inventer des imaginaires possibles et différents que ceux qu'on... Même quand on écrit de la science-fiction. Voilà.
Katia, vous pensez qu'il existe d'autres territoires à explorer, là, par exemple, vers quel territoire vous pourriez partir ?
Alors, je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure à rien qu'écrire l'utopie, en fait. c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que en narration, il y a forcément une notion à prendre en compte qui fait une histoire, c'est la notion de conflit. C'est-à-dire que le personnage, si tout roule dans sa life et qu'il n'a aucun problème avec personne, en fait c'est une pub. Je dis toujours dans mon métier, c'est une pub. C'est pas une série ce que tu es en train d'écrire, c'est une pub pour une voiture.
D'ailleurs, je vous coupe, mais il y a beaucoup plus d'histoires qui se déroulent en dystopie qu'en utopie.
Mais voilà, justement à mon avis pour ça, parce que soit l'utopie est quelque chose à atteindre, et du coup on a un personnage qui a l'air d'être dans une dystopie et la servante écarlate va se battre pour s'en sortir, etc., et va aller vers l'utopie. Soit en fait on est en train de nous vendre une utopie, mais un personnage qui n'est pas du tout à l'aise dans ce monde et qui va se réveiller pour se rendre compte que c'est une dystopie. Donc le mot utopie en fiction me pose question parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un projet, une vision du monde pour... Mais c'est une vision personnelle, je suis tout à fait curieuse de connaître vos avis. Moi, pour ma part, pour le moment, je ne sais pas si c'est vraiment un territoire utopique, peut-être, vous allez me dire, et moi je suis d'origine espagnole, je suis née en Belgique, à Liège, une petite ville extraordinaire, si vous venez, vous allez voir, on est très sympa, où il y a eu une survivance du Wallon jusque dans les années 50-60, et la langue est en train de mourir. Et là, je suis en train de travailler sur une fantaisie urbaine, où en fait, le Wallon aurait vraiment un pouvoir magique. J'ai écrit une nouvelle dans l'anthologie des Imaginales, ça s'appelle Antartage, et où la langue de la Révolution, c'est le Wallon. Et en fait, j'ai envie de redonner des lettres de noblesse à nos patois, à nos dialectes, qu'ils redeviennent les mots de la Révolution. Et je suis en train de travailler avec un documentaliste qui est expert en patrimoine et langue wallonne, qui a fait ses études avec moi et qui est formidable et qui est super excité à l'idée de... Voilà, on va écrire... Enfin, on va, je dis on parce qu'il est à fond dedans aussi, écrire un roman, voilà, fantasy urbaine à Liège, où il y aurait en fait ces créatures du patrimoine wallon qui vivraient parmi les Liégeois, les Liégeoises, et où en fait la langue, le dialecte, le wallon aurait des vertus magiques, parce que je pense que l'uniformisation est en général une dystopie, et que les singularités, les spécificités, c'est toujours ce qui va faire qu'on va avoir un plus grand spectre où se reconnaître en fait. Donc voilà vers où je vais. Pour le moment, je vais dire que je travaille sur une utopie linguistique et patrimoniale en fait. On va voir ce que ça va donner.
On verra.
Super projet.
Oui, très beau projet.
Ah, merci.
Ouais. Et vous, Alexandra ?
Ah bah, alors le monde est toujours en évolution, donc dire que tout est fini, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours des terrains où on peut soit... des sujets qui où on peut même les prendre de différents sous différents angles, donc effectivement c'est vraiment protéiforme et puis sans fin. Vous parliez d'aller de l'avant. Alors moi généralement dans mes romans je regarde en arrière, c'est-à-dire que aller de l'avant, effectivement, mieux connaître son passé pour aller de l'avant. Et donc dans Acré dans les ruines, elle revient sur sa terre natale. Dans le sanctuaire des Mona, mon roman pour les jeunes adultes, ce sont deux personnages féminins qui vont justement en Slovénie faire de l'archéologie et en creusant, mais finalement on ne sait jamais ce qu'on trouve. Dans l'archiviste, c'est retourner justement sur le passé pour mieux arriver à vivre le présent et le futur. Et donc il y a ça effectivement. Et là pareil, dans le sanctuaire des Mona, il y a aussi... une forme de rechercher le passé, et notamment par exemple des civilisations, comme il y avait une civilisation en fait Ukraine, Roumanie, enfin dans ce territoire là qui s'appelle Tripilia, et qui était une société qui n'était pas fondée sur la hiérarchie des choses et qui était vraiment prospère. Et donc il y a plein de choses dans le passé où on peut justement piocher pour savoir comment on peut améliorer notre présent, bien entendu. Oui.
Alors, l'heure tourne terriblement. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Allez-y. Jetez-vous, lancez-vous. Profitez-en. Il y a encore une dizaine de minutes, 8 minutes. Pas de questions ?
Moi, j'en ai une.
Oui ?
Pour Alexandra.
Oui ?
J'ai adoré à crier dans les ruines.
Merci.
C'est un roman magnifique. Et justement, alors on n'est pas forcément dans l'utopie, mais fin terrible qui est au cœur du livre naît finalement une fin très optimiste. C'est important pour vous que justement il y ait cette dimension très forte et très belle pour contrebalancer la dramaturgie et l'horreur des événements.
Oui, oui, complètement. Alors, À crier dans les ruines, qui est mon premier roman, commence par la catastrophe de Tchernobyl. Et donc, comme je suis d'origine ukrainienne, alors généralement, quand j'étais petite et que je disais que j'étais d'origine ukrainienne, personne ne savait où était l'Ukraine. Et au mieux, on me disait « oui, c'est la Russie ». Et après, une fois que la catastrophe de Tchernobyl a eu lieu et que je disais que j'étais d'origine ukrainienne, on me disait « ah oui, c'est là qu'a eu lieu la catastrophe, c'est terrible ». Et alors oui, effectivement, c'est terrible. Mais en même temps, et là je rejoins Katia, c'est-à-dire qu'on parle de cette catastrophe comme l'histoire avec un grand H, mais la petite histoire avec les gens qui sont derrière, les gens qui sont restés, les gens qui ont vécu ou qui ont été exilés parce qu'il y a une zone interdite qui a été créée, on n'en parle jamais. Et quand on creuse un petit peu, alors notamment parce que... alors vous avez des personnes qui vivent dans cette zone-là qui s'appellent les Samosioles, et quand on les interroge, ils répondent « mais où puis-je aller finalement, puisque chez moi, c'est dans cette zone-là, ma maison est ici, ma terre est ici, si vous me déracinez, je vais mourir ». Et finalement, la radioactivité pour ces personnes n'est rien. Et je voulais justement recréer ce côté un peu, une sorte d'Éden en quelque sorte. Alors un Éden qui est qui a subi des traumatismes, qui a plein de cicatrices, mais en même temps, cette zone qui est interdite, quand elle a été créée, les scientifiques se sont dit que plus rien ne repousserait. C'était une zone calcinée. Or, actuellement, c'est une zone où on a donc certaines personnes qui vivent, mais aussi des animaux qui sont revenus, qui étaient en voie de disparition à côté, à 200 km de là, et qui là prospèrent. Alors, parce qu'ils ne sont pas sensibles, comme nous, à la radioactivité, mais ils sont là, et tout simplement parce qu'il n'y a pas d'hommes. Et c'est un constat terrible pour nous. Et ça, j'avais envie vraiment de le retravailler, de montrer que dans chaque traumatisme, finalement, il y a quelque chose quand même, il y a une étincelle qui est là. Voilà. Donc oui, c'était très important pour moi alors, on va pas, pour ceux qui l'ont pas lu, on va pas raconter la fin, mais d'avoir justement ce côté, le raconter comme une nouvelle forme d'Éden. Un Éden qui est justement un peu bancal, mais un peu comme notre monde. Et se dire qu'on peut toujours là agir et que rien n'est déterminé, il n'y a pas de fatalité si on est tous là en train de faire quelque chose.
Une dernière question avant de conclure ? Non, personne ? Vous êtes sûr ? Bon, bah écoutez, on va terminer parce qu'il est 55. Alors, merci à toutes et à tous. Merci à vous trois.
Merci.
Merci à vous.
Actu SF, les podcasts.